Bonjour et bienvenue dans l'émission Un jour un chiour. Vous êtes en compagnie de Philippe Elbez et nous parlerons de la paracha Béchalar dans laquelle se trouve cette fameuse Shira que nous chantons tous les jours de l'année. Notre paracha est introduite par le pasouk suivant. Vahi Béchalar Paro et Aham, et ce fut lorsque Pharaon renvoya le peuple. Velo Nacham Elohim Derech Eretz Pelishtim. Dieu ne laissa pas les Hébreux passaient par le territoire des Philistins. Ce qui étonne le lecteur dans ce passouk, c'est qu'après nous avoir expliqué l'importance du Shem Havaya dans la sortie d'Égypte, on puisse redescendre au niveau d'Elohim, puisque le texte dit que Velonacham Elohim, que Elohim n'a pas voulu laisser les fils d'Israël passer par la terre des Philistins. Donc pourquoi sommes-nous redescendus au niveau de Elohim et que le Shem Havaya a l'air de ne plus nous prendre en charge? Comment expliquer ce retour en arrière si brutal et si inattendu? On avait cru qu'après la 10e plaie, il en était fini de la servitude égyptienne. Et les voilà, sortis de nulle part et à nos trousses. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à part ces 4 premiers versets de notre paracha, le reste de la sidra se réalisera avec le nom ineffable. Alors, pourquoi Elohim réapparaît entre-temps? Une question qui en découle est que, si les Béné Israël ont été libérés à l'issue de la 10e plaie, pourquoi fallait-il encore passer par la traversée de la mer des Joncs? Cela n'était pas suffisant? Et si c'est la traversée qui est fondamentale, pourquoi alors n'avoir pas déclaré la Géoula seulement après le miracle de la mer Rouge? Les psukim qui suivent nous montrent bien que le Shem Havaya reprend la main. Alors, dans ces conditions, comment comprendre l'intervention d'Elohim pour les empêcher d'entrer immédiatement en terre de Canaan? Le problème qui perturbe notre paracha est le suivant. Que reste-t-il d'une délivrance qui s'est produite à un niveau au-dessus de l'entendement humain? Que faire d'une lucidité qui nous est apportée par le nom ineffable, même si Israël est câblé pour le recevoir? Cela ne signifie pas pour autant qu'il en a retenu un schéma suffisamment fort pour l'inciter à changer de comportement. Et c'est toute la raison d'être de ce durcissement de la situation dont le nom Elohim serait un préambule. Au moment où tu as cru être arrivé au sommet de ta plénitude, la vie se complique. Elohim réapparaît avec toutes les opacités de l'existence. Tu te vois coincé entre les montagnes, la mer et les Égyptiens derrière toi. Tu croyais t'être débarrassé des Égyptiens, avoir effacé ton passé, et voilà que tout se ressurgit. Les Égyptiens sont bien là, et les mauvaises attitudes que tu as soigneusement pris soin de cacher pendant tant d'années te remontent à la figure. Et le dévoilement du Shem Havaya n'y changera rien. Ce qui est dangereux dans le coup de foudre pour la Torah, c'est la vitesse avec laquelle on peut passer d'un extérieur avec un look de laïc à un look de religieux. On a cru qu'on pouvait changer de personne seulement en changeant de costume ou en changeant de milieu. Mais l'individu qui est en toi est toujours le même. Cela veut dire aussi que la Géoula ne t'apporte qu'un bref instant de lucidité. Elle te libère momentanément des choses qui obscurcissent ta vue. Mais si tu ne saisis pas la chance qui t'est offerte, tu finiras par tout perdre. Et c'est cette expérience qu'Elohim vient apporter aux Juifs fraîchement libérés d'Égypte. Maintenant que vous avez goûté aux joies du nom ineffable, il va falloir redescendre à la réalité du monde, incarné par le nom Elohim, afin que tu acquières par toi-même, et seulement si tu le désires vraiment, cette proximité avec le nom ineffable. C'est souvent lorsque tu penses avoir tout perdu que tu te découvres des forces insoupçonnable qui te hisse à un niveau supérieur à ta condition du moment. Le Talmud avait l'habitude de dire qu'un homme n'acquiert véritablement la Torah que s'il s'est heurté à elle. Il faut savoir accepter de trébucher pour mieux rebondir dans la vie. Et ce schéma, nous le retrouverons tout au long de l'histoire du peuple juif. Il ne faut pas oublier que si la révélation est toujours unique du côté d'Hachem, elle ne l'est plus du côté de l'homme. Elle dépend de la manière dont l'homme se prépare pour la recevoir. Et c'est pourquoi certains ont une approche plus poussée de la paracha que d'autres, non pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, mais surtout parce qu'ils se rendent plus disponibles à la parole d'Hachem. Le dévoilement est commun à tous. En revanche, ce que toi tu vas en retenir ne dépend que de ta volonté et de ton investissement personnel. Et à chaque fois que tu auras cru atteindre un niveau très élevé de plénitude, de shlemout, Elohim se chargera de t'éprouver pour t'aider à progresser davantage dans ta relation à Dieu. D'ailleurs, si tu relèves le défi et que tu continues à faire confiance à Dieu, alors Hachem te fera découvrir d'autres dévoilements encore plus grands que ceux que tu as connus jusqu'alors. C'est exactement ce qui s'est passé avec le miracle de la mer des joncs. C'est parce qu'Israël a su faire confiance à Dieu, malgré que la situation lui soit terriblement dangereuse, qu'ils ont pu par la suite entonner la fameuse Shira d'une portée prophétique et historique sans égale. Le nom ineffable ne quittera jamais le peuple d'Israël. Seulement parfois, il s'éclipsera pour donner le temps à l'homme d'acquérir par lui-même le niveau qui lui a été donné gratuitement auparavant. Il arrive parfois qu'un maître doive disparaître pour le bien de ses élèves parce que la Torah qu'il leur a transmise est trop puissante par rapport à leur niveau. Il faut donc leur donner le temps de bien la digérer, sinon ils risquent d'en courir la mort comme ce fut le cas pour les élèves de Rabbi Akiba. Les Bnei Israël ont été élevés à un niveau spirituel supérieur à leur condition d'esclaves et trop rapidement. Aussi, et pour leur équilibre, ils ont dû replonger dans une situation absurde qui ébranlerait leur pseudo-acquisition afin de les obliger à faire le travail nécessaire pour mériter un tel dévoilement. Et ce schéma se répétera avec le don de la Torah, car au moment où ils ont cru l'avoir, ils venaient de la perdre. Le peuple juif n'est pas autorisé à vivre sur ses certitudes. Cela le scléroserait. Il doit toujours remettre en cause son engagement vis-à-vis de sa relation avec Hachem. La seule certitude sur laquelle il peut se reposer, c'est que Dieu ne l'abandonnera jamais. Tant que le juif aura une attirance pour la Torah, Hachem fera tout pour lui faire rencontrer les bonnes personnes ou les bons livres qui le ramèneront sur la bonne trajectoire. Ces occasions sont rares et il ne faut surtout pas les manquer lorsqu'elles se présentent à nous. Après la traversée de la mer, les Juifs ont commencé à râler. Ce schéma ne leur convenait pas. Si nous avons atteint le niveau de prophétie le plus élevé qu'un peuple ait pu connaître sur terre, pourquoi alors devrions-nous redescendre au niveau des nations, se disaient-ils. À force de leur répéter qu'ils étaient différents des nations, ils ont fini par croire qu'ils n'auraient plus à avoir de contact avec elles. Or, si le peuple juif a été créé, c'est bien pour jouer le rôle de premier-né vis-à-vis des nations, à savoir qu'Israël doit prouver que l'homme puisse avoir une relation concrète avec Dieu sans que cela ne le détruise pour autant. Dieu n'est pas une abstraction philosophique ou théologique. C'est la meilleure option pour l'homme qui voudrait vivre une vie pleine de liberté et de vraies émotions. Mais dès l'instant que le peuple refuse de jouer son rôle de premier-né, dès qu'il est fatigué de faire des efforts pour donner du sens à sa vie, il aurait tort de croire qu'il vivra en paix, car viendra de nulle part un peuple, Amalek de son nom, pour lui reprocher d'avoir prétendu être distingué et supérieur aux autres peuples. Israël est donc coincé entre une progression perpétuelle de son judaïsme et, s'il faiblit, à une attaque directe d'Amalek, mais entre les deux, il ne connaîtra jamais de repos. La conscience a des devoirs que le corps n'a pas. On aurait bien voulu vivre qu'une seule révélation et poursuivre sa route comme les autres peuples. Mais cela n'est même pas envisageable, car dans la relation avec le divin, c'est total ou rien. La seule chose qu'Hachem peut nous accorder, c'est le temps pour y arriver. C'est pourquoi l'homme ferait mieux de s'habituer à vivre avec sa faible gloire et ses nombreux déboires. Pour compléter notre étude, il me semble indispensable de citer un enseignement de Rav Ringer Zichrono Livracha. Dans un enregistrement, il dit la chose suivante. De quoi parle notre paracha ? Après être sorti d'Égypte, Israël semble s'être égaré dans le désert, ce qui donne l'envie à Paro de les poursuivre pour les ramener sous son emprise. Coincé entre la mer des joncs, deux montagnes et les Égyptiens derrière eux, la situation semble être désespérée. Finalement, la mer s'ouvre, les Hébreux la traversent à pied sec, tandis que les Égyptiens s'y noieront. Israël réalise la portée de ce miracle et entonne le fameux cantique de la mer Rouge. Tout semble merveilleux dans le meilleur des mondes, mais voilà, que se passe-t-il après ? Juste après, les Bnei Israël murmurent contre Moshe. Ils veulent de la viande, ils obtiendront des cailles. Ils réclament du pain, ils recevront la manne. Et enfin de l'eau, ils découvriront le puits d'eau par le mérite de Myriam. Cette paracha se termine par l'attaque lâche et gratuite et inimaginable du peuple d'Amalek contre Israël. De cet événement, il restera une sorte de mission pour toutes les générations juives d'effacer le souvenir d'Amalek, événement que nous fêtons à Pourim. Comme il est écrit « Yassa Moshe et Israël Miyam Souf », Moshe força Israël à décamper de la plage des joncs. Il semblerait qu'après la Shira, les Bnei Israël ne voulaient plus partir de cet endroit. Après tout, ils étaient des Égyptiens, nés en Égypte, avec la culture égyptienne. Ils ne renient rien de ce qu'ils ont vécu. Ils ont vu le témoignage le plus grand qu'il ait été donné de voir au monde, à tel point que nous disent les sages qu'une femme servante a pu prophétiser, au moment de la traversée de la mer Rouge, ce que le plus grand des prophètes, Yéhézkiel, n'a pas eu le droit de voir. Et pourtant, ils ressentent l'envie de retourner en Égypte. Pourquoi ne veulent-ils plus avancer ? En fait, ils ne devaient pas passer par la mer Rouge. Il semblerait qu'au début, ils n'avaient pas eu besoin de la traverser. Ils n'ont fait qu'un demi-cercle sur la même rive, uniquement pour entraîner les Égyptiens, afin qu'ils soient engloutis. Pourquoi alors recommencer une nouvelle fois ? Tout le début du Midrash nous montre une remise en question des Bnei Israël après la mer Rouge. Vayi Beshalar Paro et Ta'am semble indiquer que Paro a râlé lorsqu'il a vu ses Hébreux, nouvellement délivrés de l'esclavage, errer dans le désert sans savoir clairement où ils allaient. Alors si déjà Paro avait pu râler, cela signifie qu'Israël a dû râler davantage. Finalement, ces Hébreux sont désignés par le mot « Am » qui représente le niveau le plus bas du peuple. C'est ça la sortie d'Égypte dont Moshe nous a vanté les mérites. Toutes ces plaies pour produire ce peuple-là, normalement ils auraient dû se diriger vers la terre d'Israël. Mais Hachem ne l'a pas voulu. Pourquoi ? Le problème serait le suivant. Entreprendre conscience une première fois à la sortie d'Égypte et réaliser ou intérioriser ce que la conscience a compris, entre les deux, il y a un vaste chemin à parcourir. Et c'est ce vaste chemin auquel fait allusion notre paracha. En attendant, les Égyptiens sont bien là, tout est encore bien en place. On croit avoir pris le dessus sur une idée, sur une notion, et pourtant, on y est toujours accroché. Entre-temps, il faut continuer à vivre, il faut maintenir un certain équilibre de soi. C'est un grand mérite pour le peuple juif d'avoir pris conscience de l'enjeu de la sortie d'Égypte. Mais entre-temps, la vie continue à tourner et il faut se battre pour survivre. Une autre manière d'aborder le problème est la différence qui oppose Yaakov à Esav. On peut envisager le problème autrement. À propos de Esav, il est écrit « Vayi kreou chez moi Esav ». Il fut appelé Esav. Tandis qu'à propos de Yaakov, c'est écrit « Vayi kra chez moi Yaakov ». Il, au singulier, appela Yaakov. et ceci viendrait nous enseigner une différence entre Yaakov et Esav. Esav signifie celui qui est déjà fait, tandis que Yaakov est un futur. C'est celui qui a tout à faire en déjouant tous les pièges des gens. L'un représente la structure d'un monde qui croit savoir très clairement pourquoi il est là, quel sens donner à sa vie. Cette structure est très puissante. Elle est là, omniprésente, toute faite. Il n'y a plus qu'à consommer. La Torah et le peuple juif représentent la structure d'un deuxième monde où l'on raconte que l'homme a une neshama, qu'il existe des schémas fondamentaux de la vie. Ils sont tentants, intéressants, mais malheureusement, ils ne reviennent jamais et ne peuvent construire la vie de l'homme. Il faut un vaste chemin pour qu'un schéma soit mangeable, intégré dans le comportement de l'homme avant qu'il puisse devenir une constante dans sa vie. Entre-temps, le monde existe, il est bien là avec ses propositions. Paro est toujours aussi influent qu'auparavant. En un bref moment de lucidité et de conscience, le peuple juif a pu ressentir très fortement qu'il pouvait établir une relation avec Dieu de façon très personnelle. Il a pu se libérer de l'emprise de Paro. Oui, mais après, la conscience tombe, les Égyptiens ressurgissent et on a l'impression de n'avoir pas avancé. On est là avec cette réalité d'un peuple égyptien toujours aussi bien structuré et un peuple juif qui a vaguement entendu le son du chauffard, l'annonce d'une délivrance dont on ne sait pas par quelle boule la saisir. Le peuple juif doit bien continuer à vivre, alors qu'est-ce qu'il doit faire en attendant? Yaakov doit tricher pour avoir les bénédictions de son père. C'est que pour construire un monde de Kedusha, une deuxième réalité à ce monde, il faille se glisser entre celui qui est déjà présent et donc qu'il faille tricher. Face à un monde qui s'est imposé depuis trop longtemps, il est difficile de lui présenter une réalité toute différente. Le monde est mondain, il ne se pose pas de questions existentielles, il a sa propre structure de pensée que rien ne peut venir bousculer. En revanche, un deuxième monde basé sur la conscience de l'homme est un monde qui a tout à construire. Il a vaguement entendu de quoi il s'agit et avec ça, il doit proposer un second modèle de société. C'était donc quoi le miracle de la mer Rouge? Est-ce que le peuple juif était prêt à revoir les Égyptiens une dernière fois, à reprendre conscience de l'état d'esclaves dont ils avaient cru en être sortis et à accepter de découvrir avec stupeur qu'en fait ils en étaient toujours leurs esclaves? Dit autrement, s'ils sont sortis des griffes de l'Égypte, l'Égyptien qui était en eux était toujours présent dans leur esprit. Pourquoi était-il nécessaire de passer par la mer Rouge et pourquoi la sortie d'Égypte n'était pas suffisante et qu'ont-ils gagné de plus par cette épreuve? Étant donné que le peuple juif devait être conscient qu'il n'était pas encore arrivé, il devait à ce moment-là et consciemment être prêt à accepter avec abnégation cet état de fait, avoir une recherche de l'absolu, bien qu'il soit à des années-lumière de cet absolu. Un monde de pensée est beaucoup plus difficile à structurer que le monde des affaires ou des soi-disant évidences physiques. Au peuple juif, on demande à chaque moment d'être prêt à tout recommencer, de s'ouvrir vers des pistes nouvelles de compréhension. Traverser la mer des joncs, c'était accepter d'être traversé par une idée nouvelle et s'adapter à elle. Les juifs, en acceptant le principe, ont pu traverser en toute sécurité cette épreuve qui les a qualifiés. Mais les Égyptiens qui ont préféré camper sur leur position n'ont pas survécu à leur entêtement. Tel était le sens profond de cette expérience. Être juif, c'est accepter de rechercher la vérité coûte que coûte, recommencer encore une fois, d'une manière absolue, même si on se trouve devant l'impasse la plus grande et la contradiction la plus étouffante. Entrer dans la mer Rouge, c'est rechercher inconditionnellement ce monde de la vérité spirituelle et totale, sans faire la moindre concession. Et de toute façon, c'est ça ou rien. Je suis d'accord de n'avoir rien fait pour le mériter, mais maintenant que j'ai conscience de la possibilité qui s'offre à moi, j'accepte de m'engager à rechercher cette vérité de toutes mes forces, en donnant le meilleur de ma personne. Le seul mérite que l'homme peut avancer, c'est ce qu'il a fait de la connaissance de cette vérité. Les Égyptiens, parce qu'ils refusent d'en tenir compte, périront suivant les lois de la nature. Tandis qu'Israël, parce qu'il n'hésite pas une seconde et contre toute logique à s'engager dans les flots, quitte à se noyer, se voit accorder le droit de surpasser les lois de la nature et de sortir indemne de l'épreuve. Face à ce choix, même la plus petite des servantes a pu prophétiser ce que le plus intelligent des hommes ne pourra jamais atteindre par son seul raisonnement. Rencontrer les Philistins serait déjà une manière de revenir dans le monde civilisé et de proposer quelque chose de très structuré face au monde goy et la société qu'il propose. Dans l'entretemps, il faut agir, accumuler des mérites qui montrent qu'on est différent d'eux parce qu'on s'est laissé traverser par cette vérité qui nous dépasse. Construire le monde de la Kedusha avec le peu de compréhension que nous avons relève de l'impossible face à un monde bien organisé. Alors pourquoi le peuple juif s'accroche à vouloir le construire? Pourquoi il s'empoisonne la vie à construire une société avec des lois spirituelles? Pourquoi ne laisse-t-il pas faire la nature? La sortie d'Égypte a montré l'attachement qui reliait le peuple juif à Dieu. Et rien ne pourra jamais l'effacer. Comme dit Shir HaShirim, Maim Rabim Lo Yochlu Lechavot Et Ahava, le peuple juif a été qualifié parce qu'il a été prêt à bouleverser ses habitudes et son idée de la vérité face à une vérité plus fondamentale telle qu'on peut l'approcher à travers la Torah. En sortant de la mer des joncs, cette conscience en main, les Juifs ont cru qu'ils étaient enfin parvenus à la fin de leur voyage. Viens Moshe et leur demande de poursuivre leur chemin. Ils se seraient bien contentés de cette Shira pour l'éternité. Mais voilà qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'apprécier ce moment extraordinaire qu'on leur demande de le quitter. Et en plus, pour aller où? À partir d'ici, la Torah nous exposera beaucoup de déceptions et parfois même des révoltes du peuple juif. Le drame de Béchalar, c'est qu'on a pu voir une grande vérité, faire un premier pas dans son sens et toujours être en quête de notre destinée. On croyait être arrivé à quelque chose de grand et Moshe est obligé de les déloger de force de la mer des joncs parce que la route est encore longue. Tout reste à faire malgré les progrès qu'on a déjà réalisés. La Kedusha n'est pas un monde qu'on édifie en un jour. Il faut accepter à titre personnel tout un battement, une période de creux. L'homme de Torah cherche un monde rationnel, tout à fait équilibré, calqué sur les schémas de la Halakha, sans avoir à lui demander de faire un effort surnaturel. En face de lui se trouve un monde bien réel qui se structure et existe fortement. Et la confrontation entre ces deux mondes est inévitable et pas toujours marrante. À ce moment-là, les Israélites ont dit « Retournons en Égypte ». Comment les Israélites ont pu oser dire une telle chose? Maintenant qu'on a bien compris l'existence de cette vérité plus profonde, maintenant qu'on est prêt à tenir compte de cette vérité dans notre vie, alors pourquoi ne pas retourner en Égypte? Après tout, on connaissait bien le pays, la langue et les usages. Avec la sortie d'Égypte, on a pu, en quelque sorte, secouer le joug des goyim. On a pu titiller leur puissance, et c'est une chose heureuse. Ce sentiment est une erreur de temps. Après la lutte doit venir le temps où l'on devrait se dire qu'on mérite de se reposer et de se laisser aller à la vie cool et paisible de l'existence. On a tellement souffert durant l'histoire pour défendre cette vérité qu'on aurait le droit à un répit et un moment de quiétude. N'est-ce pas ça l'idée générale de la terre promise? N'est-ce pas légitime d'aspirer un moment de bonheur sans avoir à devoir le mériter en permanence? Souvent, le Baal Tshuva croit voir dans l'homme religieux l'image du type arrivé, enfin celui qui sait où il va. Il suffit de s'habiller comme lui, vivre dans le club très fermé des braves et se laisser aller à sa propre religion. Cependant, plus il s'approche et plus il va de déception en déception. Il n'existe pas de terre d'asile où vivre heureux. Ça se serait vivre dans le Olam Haba. Et ce serait justement cela l'expérience de Kiryat Yam Souf, renoncer à tout ce que nous croyons être acquis, comme si nous n'avions jamais rien acquis. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de l'histoire, et plus vite tu auras déchiré cette idée, et plus vite tu continueras à travailler pour justement rapprocher la fin de l'histoire. Et ce serait justement cela l'expérience de Kiryat Yam Souf, renoncer à tout ce que nous croyons être acquis, comme si nous n'avions jamais rien acquis. En fait, il faudrait revivre Kiryat Yam Souf tous les jours, afin de ne pas s'endormir sur ses lauriers. N'est-il pas dit que tout celui qui lit avec ferveur la Shira se voit pardonner toutes ses fautes? D'ailleurs, les mots Kiryat Yamsouf ne veulent pas dire déchirer le jour de la fin, déchirer la fin de l'histoire de l'homme, refuser de vivre une vie qui est faite d'avance. C'est avoir la prudence de ne pas emprunter la même route qu'Essav. Ce qui est plus ennuyeux, c'est que Moshe, en les forçant à quitter la mer Rouge, les oblige également à quitter la vision extraordinaire de la mer Rouge et le niveau de ce cantique qu'ils ne reproduiront jamais plus. Ils ne reviendront jamais au niveau de cette clarté. Souvent, on vit un Dvar Torah qui nous inspire très fortement, si clair aujourd'hui et pouvant tout expliquer. Cependant, le lendemain, on découvre avec stupeur avoir perdu cette flamme qui nous animait la veille, et tout reste à refaire. Non seulement je dois aller chercher plus loin, mais aussi ce que j'ai cru acquérir hier, je découvre aujourd'hui que ce n'était pas si clair que cela. Je ne renie pas ce Dvar Torah, mais aujourd'hui, il ne m'aide plus à avancer. Ils n'ont pas seulement perdu la vision du miracle de la mer Rouge, mais aussi l'enthousiasme et la flamme du cantique de la mer des joncs. La vie d'un juif est composée de bribes de lucidité, entrecoupées de grands moments d'obscurité et de contradictions. On doit amasser des quantités de Dvar Torah, alors qu'un seul nous aurait suffi pour tenir une éternité. Et cela a un sens. Dieu fait volontairement oublier un Dvar Torah à l'homme pour l'obliger à s'intéresser à un nouveau sens et agrandir sa perception de Dieu. Et dans ces conditions-là, c'est par le mérite de l'homme qu'il lui sera accordé un Olam Haba à la dimension des efforts que l'homme a dû produire pour l'acquérir. En attendant, eh bien, tout s'oublie, tout disparaît, et le peuple juif doit toujours se retrouver dans une situation où il recommençait un nouveau départ. Car si Dieu ne nous avait pas sortis de cet éblouissement, nous n'aurions pas trouvé nécessaire d'aller voir ailleurs. Mais Hachem a voulu multiplier les mérites de l'homme, et c'est pourquoi il lui a fait oublier sa Torah dans le but qu'il recherche d'autres enseignements. Je vous souhaite un Shabbat Shalom.